L'industrie, secteur très gourmand en énergie, est touchée et la production chute. Les pays résistent, comme l'Espagne, où la forte saison touristique a permis d'éviter la récession. Mais cette résilience pourrait ne plus durer.
Radio G, 101.5 FM.
Impromptu littéraire. Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Les bourreaux et victimes en mêlent leur récit »
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire sous-jacente.
Je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur ». Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Chers auditeurs, bonjour. Cette semaine, nous allons poursuivre la lecture de La patience des traces de Jeanne Benhamer. Simon, psychanalyste, décide de partir au Japon dans l'île de Yaeyama, dans la demeure des très sages et très vifs, Monsieur et Madame Ito. À l'autre bout du monde, Simon en fait l'expérience sensible, la rencontre avec soi, passe par la rencontre avec l'autre. C'est un chemin vers sa liberté.
La patience des traces, roman paru chez Actes Sud en janvier 2022. Jeanne Benhamer, romancière et poète, est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment Profane en 2013, Grand Prix du roman RTL, Lire, Otage intime 2016, Prix des libraires en scène, et plus récemment, Ceux qui partent, Prix des lecteurs de Corse 2020. Elle est l'auteur de textes poétiques comme L'exil n'a pas d'ombre, prix de poésie Vénus Curie Gatta en 2019, livre que nous avons eu le plaisir de vous lire dans cette émission. Lui revient alors une phrase qu'il avait prononcée en séance avec un patient dont la cure n'avançait pas. « La rage, c'est de ne pas réussir à aimer ce qu'on désire. » Il y a des moments où une pensée trouve son expression juste sans qu'on la recherche. Les mots ont attendu sans doute longtemps et soudain quelque chose se formule. C'est l'évidence et c'est fort. Le ciel envoie maintenant sa clarté jusque sous la véranda. Simon se redit la phrase qui avait orienté le travail de son patient. Il est toujours convaincu de sa justesse. C'est alors qu'il se rend compte que Namiko est debout face à lui. Elle est aussi grande que sa mère, le regarde dans les yeux, ce qu'il le sait, n'est pas l'habitude ici, et lui parle de cette voix douce si peu accordée à son physique. Akiko traduit. Namiko vient de vous inviter à la suivre dans la forêt. Elle va chercher des plantes dont sa mère a besoin. Akiko ajoute qu'il est très rare que Namiko invite quelqu'un à la suivre. Simon est honoré. Mais il ne peut s'empêcher d'éprouver une sourde appréhension face à cette jeune femme. Les sourires de Nara et Akiko l'encouragent. Sans doute les deux femmes ont-elles envie de se retrouver en tête à tête. Il se sent obligé d'accepter. Il suit la grande jeune femme. La forêt l'impressionne. Namiko l'impressionne. Akiko l'a-t-elle senti, qui lui a glissé avec une telle guide, « Vous pourrez être tranquille. » Tranquille ? Non, il ne l'est pas, mais décidé à saisir ce que la vie lui propose. Oui, la marche dans la forêt est aussi difficile qu'il le craignait. Namiko ouvre la voie d'un pas égal. Il est sûr pourtant qu'elle a ralenti son pas pour lui permettre de suivre. Elle coupe avec des gestes précis et sûrs ce qui pourrait le gêner. Parfois, elle se retourne comme pour l'encourager. Elle ne sourit pas. Son visage est pourtant différent. Dans la forêt, il est plus doux et Simon se rassérène. Il suit cette femme et se dit que la confiance, elle est là. Il met ses pas dans les siens, comme il a suivi la Raymonta. Quand elle se relève, il se relève aussi. Elle va alors droit à une plante magnifique, poussée entre les arbres. Comment peut-elle pousser ainsi alors que la lumière du soleil semble si loin ? La plante est haute, charnue, et c'est le mot « fier » qui vient à l'esprit de Simon. Namiko se penche et coupe délicatement une lamelle dans le pied, sous les feuilles. Une couleur magnifique, d'un rouge intense, apparaît. Elle lève les yeux, dit quelque chose au ciel, au dieu peut-être de la montagne. Puis elle soustrait à la plante trois morceaux longs et étroits de ce rouge éclatant. Elle opère avec précaution, choisissant avec soin les endroits où elle prélève, parcimonieusement, ce qu'il lui faut. Simon suit chacun de ses gestes experts et soudain il est saisi. C'est une évidence. Cette plante au cœur rouge, c'est pour Mathieu. Alors, debout face à la plante, la seule prière dont il est capable lui vient. Il dit qu'il lui confie la danse archaïque de son ami, le rouge pour le rouge. Il dit que là, elle restera vivante, comprise enfin et nourrie et aimée. Il dit qu'il ne sait pas s'il reviendra, mais que la tombe de son ami, elle est ici désormais, pour lui, et qu'il pourra en penser s'y recueillir et prier pour la vie magnifique, la vie libre, la vie à explorer. Il dit enfin qu'il sait que Namiko est une bonne gardienne. Elle a ce geste inattendu, elle lui pose la main sur l'épaule et il voit son premier sourire dans la forêt. Namiko poursuit sa récolte et il la suit. L'émotion profonde ne le quitte pas. Il a la sensation qu'elle s'empare de tout son corps, lentement. Il suit Namiko comme dans un rêve. Penser, il ne peut plus. Il ne cherche rien d'autre que de ne pas perdre le pas.
Akiko a doucement réveillé Simon, endormi au pied du métier à tisser. Elle a apporté une collation sous la véranda et l'invite à les rejoindre. Simon se rend compte qu'il a faim. Il mange avec un appétit qui réjouit tout le monde, les spécialités préparées par Nara. Bientôt, il se laisse happer par leur présence légère. Retrouver ce monde-là lui fait du bien. Après le sommeil bienfaisant, l'émotion en lui commence à se transformer en paroles claires. Oui, il a aimé Mathieu et il a aimé Louise. Pas de la même façon, mais l'amour est vaste et le désir a tant de nuances. Mathieu, la nuit du feu et de la danse, a éveillé en lui une puissance érotique qui le dépassait. Il en avait toujours voulu de ce trouble. Alors que c'était sur la force même de son désir que Mathieu le renseignait, pour la vie entière. Il aurait dû l'en remercier. Oui, merci pour ça aussi, et tant pis pour le doute que cela semait dans son monde ordonné. Avec Louise, il avait été transporté au cœur de la douceur la plus profonde. L'innocence était préservée. Comment expliquer cela ? Comment s'expliquer à lui-même qu'au fond de lui, il savait qu'il y avait autre chose, un désir puissant, sauvage, son vrai désir, et c'est avec les amantes passionnées de passage qu'il a pu le trouver. Ce désir, son intensité qu'il a tant recherché, a mené toute sa vie amoureuse. Sa jouissance était à ce prix, et il a payé comptant, après tout. Il s'est longtemps raconté qu'il avait raté une vie heureuse avec Louise, mais il n'aurait pas pu rester avec elle. Il avait trop besoin de retrouver la part sauvage de son propre désir. Et il savait d'instinct trouver celle qui l'éveillerait. Pour ces moments-là, il avait été capable de bien des choses. Il avait pris des trains, bousculé des rendez-vous. C'était un amoureux fou. Il avait besoin de brûler haut et fort. Besoin d'aller sur ce territoire où il n'y a plus que des corps tendus vers ce qui surpasse tout. Un ailleurs qui n'a cessé de l'attirer, plus haut, plus fort, que tout ce que la vie offre, un appel puissant. Il aurait pu être un mystique, mais lui, c'est avec le corps des femmes qu'il trouvait l'au-delà, et il ne s'en est pas privé. Dont l'habitude et le confort du couple n'étaient pas pour lui, même s'il en avait rêvé. Sa vérité, elle était là. Aujourd'hui, il se rend compte que c'est à Mathieu qu'il doit d'avoir été réveillé. Cet héros profond, c'est Mathieu et sa danse sauvage qui le lui avaient révélé. Et même si son désir à lui s'adresse au corps des femmes, et que cela a bouillé longtemps sa compréhension des choses, c'est quand même Mathieu qui en a été le révélateur. De cela, il faut remercier encore et encore. Il cherche le regard de Namiko. C'est en la regardant qu'il remercie intérieurement, parce qu'elle fait le lien avec la plante au cœur rouge. Elle-même, il la voit comme une plante humaine, poussée dans la forêt pour être la fille de Nara. Simon boit le saké qui lui est offert en se disant qu'il touche enfin à quelque chose d'essentiel. Il voit sa vie clairement. Il n'est pas uniquement le joueur d'échecs réfléchi, le nageur, le psychanalyste à l'écoute patiente, l'homme à la vie sauvage. Il a été un amant fougueux à la jouissance intense. Et sa vie, c'est tout ça. Faire la paix avec Louise, ce serait bien.
Maintenant, toute la petite troupe quitte la maison de Nara, les bras chargés des tissus. Namiko a mis dans ceux de Simon une grande pièce de tissu rouge. Il aime penser qu'elle a été teinte par la belle plante au cœur rouge. Il se dirige vers la mer, traverse les mangroves. Simon a repris des forces. Il est fatigué par tout ce qu'il éprouve, mais il sent que son corps de jeune homme répond bien, à nouveau. Il arrive à la mer. Et dans sa poitrine, quelque chose de vaste s'ouvre. Après la forêt, entre ses côtes, le souffle large, la mer. Comme à chaque fois, il ressent cette impression totale d'être au monde. Il ne pourrait jamais vivre sans la mer. Akiko lui explique que l'eau va laver les impuretés des tissus et que le sel va fixer la couleur. C'est une étape indispensable, la dernière. Simon se sent transporté dans une autre époque. Ici, tout est fait en prenant le temps, avec seulement ce qu'offre la nature, et elle est bonne pourvoyeuse. Les moyens du bord, affinés par l'industrie humaine au fil des générations. Rien ne s'est perdu de la transmission, et Nara la poursuit avec ses stagiaires. Dans une simplicité qui, il le mesure, est une forme raffinée de luxe véritable. Nara donne le signal en étalant un premier tissu dans l'eau transparente. Chacune en fait autant, lui aussi. Alors il voit Nara s'allonger dans l'eau, tout habillée, près du tissu. Sur le dos, elle se laisse porter par l'eau. Il n'y a pas de vagues, tout est calme et elle se repose. Cette femme abandonnée à la mer puissante, lui confiant toute la fatigue de son travail, le repos de son dos, un sourire aux lèvres, c'est un enseignement qui se poursuit. Simon étale lui aussi la pièce de tissu rouge. Il fait les gestes en prenant soin de ne pas laisser des plis se former. Il sent le tissu mouillé sous ses doigts, il regarde la couleur de l'eau, le bleu transparent, et chaque pièce de tissu étalée, des aplats de couleurs vives. Un tableau horizontal, magnifique. Il ne perd rien de la beauté qui est ainsi offerte. Il contemple et d'un mouvement lent, il s'étire longuement. Puis, il se laisse lui aussi porter par la mer. Il goûte lui aussi au repos de ce qu'il a accompli dans cette journée. Est-ce qu'il s'est donné le droit à ce repos dans sa vie? A-t-il bien accompli son ouvrage de mots et de silence? Il revoit une posture, un bras, une main sur une poitrine, des hommes, des femmes, et cette envie de vivre finalement tenace qui les menait jusque chez lui chaque semaine. C'est auprès d'eux qu'il a nourri lui-même le terreau de sa propre vie. Tout est toujours réciproque. Il sait qu'il avait besoin de la présence des autres, là, dans son cabinet, à portée de voix, de murmures. Cette présence avait peuplé son existence sans qu'il y prenne garde. Cela lui avait tenu lieu de tout ou presque. Eh bien, aujourd'hui, il a la mémoire de tout cela. C'est un trésor. Il a le sentiment qu'il pourra y puiser pour avancer, seul. Il va débuter un autre temps de sa vie et à cet instant, il se sent fragile et confiant à la fois. La vie est bonne pourvoyeuse, décidément. Pour peu qu'on lui laisse du champ libre. Le champ libre, il est venu le chercher ici et peu à peu, il sent qu'il le trouve. Toutes ces années n'ont pas été vaines. La psychanalyse ne cherche pas la perfection, surtout pas. Il s'est trompé sûrement parfois parce qu'il n'est qu'un être humain et que son imaginaire, ses propres projections lui ont joué des tours. Mais il sait qu'il a écouté chaque voix avec la plus grande attention pour tenter d'entendre juste. Chaque être humain qui a franchi son seuil est venu aussi à la découverte de ce que serait débuter, même si on sait bien qu'on ne recommence jamais à zéro. Mais quand on vient s'allonger sur le divan d'un analyste, on cherche à débuter quelque chose de nouveau avec soi-même. Il faut quelqu'un en qui on a confiance, une confiance totale. Il a essayé d'être à la hauteur de cette confiance. Il a estimé chacune des femmes, chacun des hommes qui avaient franchi son seuil et qui avaient tenté l'aventure. Il savait leurs risques et périls pour l'avoir lui-même vécu. Aujourd'hui, il sent qu'il le sait mieux encore. Son cœur est désencombré.
Cette nuit-là, il fait l'amour longuement, passionnément. Dans son rêve, la femme est grande. Il ne voit pas son visage, mais il sent sa chaleur, sa douceur, une odeur de forêt. Et il retrouve un élan érotique qu'il connaît bien. Tout son corps est appelé à nouveau. Faire l'amour est le seul acte qui l'emporte aussi intensément, qui lui fait atteindre quelque chose d'autre que la chair, par la chair. Il se laisse emporter. Le rêve-t-il, ce corps qu'il caresse, prend dans ses bras, cette chevelure que ses mains tiennent comme un trésor palpable, les épaules de la femme robuste et douce, un corps de nageuse? Est-ce Louise revenue d'entre les rêves? Il nage et leurs lèvres se touchent. Mais cette fois, ce n'est plus le timide baiser de la jeune femme. C'est un baiser qui sait ce qu'est la volupté. Il embrasse comme il n'a plus embrassé depuis si longtemps. La bouche de l'autre est une grotte merveilleuse, celle d'où sortent toutes paroles. Il caresse de la langue tous les sens en éveil, l'intérieur de cette bouche offerte. Il caresse les paroles silencieuses. Il le retrouve en lui, ses paroles tuent de l'amour. Tout son corps se tend vers celui de la femme qui s'offre si bien à lui, dans un abandon qui le bouleverse. Il voudrait la tenir contre lui pour toujours. Il sent une main s'emparer de son sexe, le caresser, le guider vers la jouissance pénétrante. Tout en lui alors se réunit et se diffracte à la fois dans une joie rayonnante. Quand il se réveille, le corps encore vibrant de plaisir, il a la sensation d'une présence dans l'espace que Nara lui a préparé entre de légères cloisons de tissu tendu aux poutres hautes. Est-ce le vent ou son rêve? Il n'y a personne. Il ne saura jamais. Mais son corps désirant vient de lui être redonné. Sa main caresse le drap auprès de lui et il revoit le grand tissu rouge dans la mer. Alors, dans la paix de cette nuit merveilleuse, il sait que la vie n'est pas juste, qu'elle emporte les uns dans l'obscur et comble les autres. Cette nuit, c'est à son tour d'être comblé, et de cela, il peut remercier aussi, sans poser de questions. La mort de Mathieu n'appartient qu'à Mathieu. Elle n'appartient ni à lui, ni à Louise. On s'empare des actes, ils nous font du mal. On croit, on voudrait y avoir joué le rôle principal, même si ça fait mal, juste de pouvoir être totalement impuissant face à ce qui arrive. Mais toutes ces années lui ont appris que ce qui se passe dans le cœur et la tête de chacun n'appartient qu'à celui dont le souffle anime. Et ce cœur et cette tête, c'est le cœur de la plante. On est maître de rien. On peut juste accepter, mettre tout son art, toute sa vie, à comprendre ce qu'est le fil de l'eau, le sens du bois, le rythme des choses sans nous. Et c'est un travail et c'est une paix que de s'y accorder enfin, la seule vraie liberté. Simon garde les yeux ouverts dans la clarté laiteuse du matin. Il voit la lumière du jour redonner peu à peu à chaque tissu sa couleur. Il ne se rendort pas. Quand il rentre, Daisuke les attend. Il les emmène dans le jardin jusqu'au pavillon des coupes cassées. Cette nuit, il a fini de réparer une belle pièce. Elle appartient à Nara. Elle sera heureuse de la retrouver au prochain voyage d'Akiko. Simon se dit qu'il ne sera plus là, qu'il ne reverra pas le beau sourire de Nara quand elle prendra la coupe des mains d'Akiko. Il va repartir. Il en parle à ses hôtes qui ne lui ont jamais demandé combien de temps il comptait rester. Encore quelques jours à parfaire ce qu'il sent être le début de quelque chose. Il a besoin de fixer lui aussi les nouvelles couleurs, de laisser s'imprégner tout ce qui l'a mené jusqu'où il est maintenant. Il n'est pas étonné que Daisuke lui propose de retourner aux sources chaudes. Cette fois, ce sera son Akiko. Les deux hommes ont donc refait le chemin. C'est Simon qui conduit, Daisuke le guide. C'est étrange pour Simon de conduire ici. Au début, il scrute chaque tournant s'attendant à ne sait quoi, mais peu à peu il se détend et garde la voiture sur l'esplanade. Dans le bassin aux eaux brûlantes cette fois, il sait ce qu'il faut faire. Il a plaisir à retrouver les gestes et le bruit de la cascade. Le silence de Daisuke l'accompagne. Cette fois, Simon lui aussi plonge la tête sous l'eau. Son corps s'est habitué à la chaleur intense et il ne craint plus de le faire. Il découvre alors combien cela décuple le sentiment de délivrance, d'abandon à tout. Le cœur s'ouvre infiniment dans cette chaleur, la tête aussi. Plus rien ne fait obstacle. Alors, revenant à la surface, Simon entend un chant. Akiko n'est pas là, il n'ose pas demander à Daisuke qui chante. Peut-être personne. Peut-être, comme cette nuit chez Nara, ne saura-t-il jamais s'il y avait vraiment quelqu'un. Il écoute la voix qu'il entend comme si elle murmurait à son oreille. Daisuke, dans son anglais maladroit, lui dit que c'est le comte de la Remonta. Simon se laisse pénétrer par le chant. Le chant lui dit qu'il a été aimé, qu'il a aimé et qu'il aimera à nouveau. Il y a des moments où tout l'être est ainsi appelé, rappelé. Il y faut un cœur désencombré. Corps, esprit, cœur sont enfin unis. C'est à ce moment que vit Simon. La vieille rage est morte. Il comprend de tout son être que le début de tout, c'est bien de pouvoir aimer ce qu'on désire. Il pense à l'expression « paix à son âme ». Il ne sait pas si Mathieu aurait souhaité la paix, mais lui, oui, la paix, il la veut, quant à son âme. Il en a ici la conviction, lui qui a toujours laissé cette question de côté, l'âme. C'est un instant, c'est tout. Juste un instant. Ce n'est ni un état, ni quelque chose de mystérieux qui nous serait donné, comme le corps nous est donné pour vivre cette existence. L'âme, c'est un mouvement, fugace. On l'atteint quand tout de notre être s'unifie pour pouvoir, dans un élan, se mêler enfin à tout ce qui n'est pas nous. Il n'y a pas d'état d'âme. Il y a des moments d'âme. C'est ce qu'il est en train de vivre. Il n'a jamais fait partie de ceux qui se tournent vers une religion. Pourtant, il a foi dans l'être humain, dans sa capacité à aller jusqu'aux confins ignorés. Ici, dans la nuit qui vient, il n'y a rien d'autre que des âmes et de l'eau sur la peau. Il a le sentiment bienheureux qu'il y est, enfin. Maintenant seulement, il comprend le magnifique saut de la Rémanta. Trouver l'élan qui fait prendre le risque de quitter son eau. L'élan qui rassemble tout. Il n'y a pas d'autre façon de conquérir, un à un, chaque instant d'âme, et d'éclairer un peu, chaque fois, l'obscur de notre vie. Nous vous proposons maintenant une interview de Jeanne Benhamer réalisée par les éditions Actes Sud.
Parler du roman, c'est parler peut-être déjà de ce qui a déclenché le roman. Le déclencheur, c'était une conversation avec une amie psychanalyste qui souhaite arrêter. Et elle m'a parlé de ses agendas en pile qu'il faudrait ranger, qu'elle a gardé. Et elle me disait, tout d'un coup, je me suis retrouvée devant ses agendas et je me suis dit, alors ma vie, c'était ça. C'était être à côté de ces gens, heure par heure, jour après jour. Et cette histoire de pile d'agenda m'est restée dans la tête. Quelquefois, on démarre avec juste une image. Et je pense que là, il y a quelque chose déjà qui a commencé à tourner à l'intérieur de moi et j'avais envie de m'intéresser à celui qui est psychanalyste. Voilà. Et celui qui passe son temps à écouter les autres. Il y a eu aussi autre chose dans l'écriture de ce texte, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte tout à fait à la fin, quand je suis arrivée au moment où Simon, ce psychanalyste, a le cœur vraiment désencombré, où il a cette liberté intérieure et où finalement il parvient à saisir que dans la vie il y a des moments où on a cette sorte de, comment faudrait-il appeler ça, d'épiphanie, de je ne sais quoi, que lui va appeler des moments d'âme. Et ça m'a ramené à quelque chose qui était très fort en moi, qui était une question que mon fils m'avait posée lorsqu'il était tout petit, il avait 5 ou 6 ans. Et il a eu cette question tellement étonnante, bouleversante, au moment où il prenait son petit déjeuner, et à moitié ensommeillé, et il me regarde et il me dit « Alors l'âme, c'est la femelle de l'esprit ?» Et je pouvais imaginer à quel point j'étais mais sidérée, d'où lui venait cette question, cette phrase, et je me suis rendu compte que finalement cette question, elle avait tout le temps été quelque part à l'œuvre chez moi, et dans la patience des traces, peut-être est-ce qu'à la fin justement du texte, Simon répond à sa façon, et quelquefois ce sont des choses aussi obscures, aussi lointaines, qui sont à l'œuvre sans qu'on le sache, et c'était le cas dans ma patience des traces. Et puis, j'avais très envie que ce psychanalyste soit un peu hanté par un cas qu'il n'a pas su résoudre, qui s'est terminé de façon très abrupte. C'est le cas de Lucie F. On ne donne que l'initiale de son nom de famille. Et cette Lucie F. est une femme qui déménage tout le temps, qui ne reste jamais dans un même lieu, qui a le besoin impérieux de changer de lieu. Et il va se rappeler, au fur et à mesure de ce que lui va rechercher dans son propre silence, il va se rappeler des moments de Lucie F. Et moi, j'ai eu envie de donner au lecteur un peu la clé de Lucie F., la clé que Simon n'aura jamais. C'est-à-dire que nous, on sait peut-être ce qu'elle est devenue, cette Lucie F. Donc je me suis amusée, et c'est aussi plus sérieux qu'un amusement, à aller aussi autour du cas de cette femme-là, qui pourtant doit beaucoup à Simon. Elle trouve que c'est lui qui l'a fait avancer. Comme très souvent, on ne sait pas, en fait, qu'on a pu faire avancer quelqu'un parce qu'on ne voit pas le résultat, mais pour autant des choses ont eu lieu. Et c'est un peu pareil quand on lit un roman. Enfin, moi, ça me fait cet effet là quand je lis un texte qui m'éclaire un temps. Alors on a toujours l'espérance, quand on écrit, de pouvoir éclairer aussi un peu un temps des vies qui cherche à travers la lecture quelque chose.
Histoire d'amour et d'amitié, de désir et de rencontre, laissez-vous emporter. Bonne lecture.
Ce texte a été lu par Armel et Jean. À la technique, Jean. La musique est extraite de la mère de Claude Debussy, additionnée à la musique traditionnelle du Japon.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission